Du chanvre dans son jardin ?
D'où viennent ces graines, j'aimerais savoir.
En Asie et au Moyen-Orient, la graine de chanvre était consommée. En Iran, elle était appelée la graine des rois.
Le chanvre industriel a relancé la filière. Cette plante écologique est facile à cultiver. Chocolat, lait, huile, farine, depuis peu en France, la graine de chanvre, ou chènevis, sert de base à des produits alimentaires.
Quoi qu'il en soit, elles sont faites pour vivre sous le soleil, ces petites.
Si vous le dites.
Dans la plante, c'est le bourgeon qui t'intéresse.
Oui.
La graine est une noisette.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Pas plus tard que le 7 octobre dernier, le quotidien Le Monde titrait « Pourquoi la France se remet massivement à la culture du chanvre ?» Nous détenons une grande partie de la réponse aujourd'hui, car le chanvre est une plante aux spectaculaires vertus agronomiques, écologiques, culinaires et nutritionnelles. Mieux, nous allons vous le faire déguster aujourd'hui dans tous ses états, en huile, en farine, en graines, en protéines ou encore sous forme d'un mystérieux élixir qu'on appelle CBD. Ses immenses bienfaits, ses applications en cuisine à travers de nombreuses recettes, ses liens de parenté très très étroits avec le cannabis. Du champ à l'assiette, plein champ, sur le chanvre, avec notre invitée Linda Louis, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes une experte tout terrain de l'alimentation et de la gastronomie. Vous n'en êtes pas votre première d'ailleurs au micro dont on va déguster, chère Linda. Et vous vous penchez dans votre nouveau livre sur le chanvre, dans un livre extrêmement documenté et passionnant, Super Chanvre et CBD aux éditions alternatives, avec l'accompagnement scientifique d'une personne que vous tenez à citer.
Jacques Leca, qui a relu l'ensemble de mon manuscrit, qui a supervisé toute la partie scientifique, notamment le chapitre sur le CBD et ses bienfaits et principes actifs.
Il est chercheur en neurosciences.
Voilà, c'est ça.
C'est dire le sérieux de votre livre. La filière chanvre française se porte comme un charme. C'est ce que nous allons vérifier avec notre reporter Stéphane Combe. Il est allé rendre visite à Stéphane Péchard, chanvrier dans le Loir-et-Cher. Il produit notamment une délicieuse huile de chanvre biologique que nous allons peut-être goûter. Le chanvre, à l'heure de la récolte, un reportage à découvrir tout au long de cette émission. Dans les fauteuils des chroniqueurs, je demande en ce dimanche Elvira Masson et Arnaud Daguin. Salut les copains.
Bonjour à tous.
Elvira.
Je vais vous parler d'une autre plante vertueuse, très populaire cette fois en Éthiopie.
Très bien. Et Arnaud ?
Une petite musique de chanvre, de la réclame.
Une petite musique de chanvre. Il y a Linda qui me faisait un petit signe, ce n'est pas Stéphane Péchard.
Mais David Péchard.
C'est David Péchard, on en est désolé, notre chanvrier que nous allons retrouver dans le Loir-et-Cher. Vous avez des questions, des remarques ou des recettes autour du chanvre ? Réagissez en direct dans l'émission via notre mail onvadéguster@radiofrance.com ou avec le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter, il y a déjà pas mal de questions qui se bousculent. Nos infos, nos recettes, le podcast de nos émissions et le podcast de toutes nos chroniques sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Allez, histoire d'affronter l'immobilisme d'un nouveau confinement, je vous propose un petit aller-retour express à Rome. Roma. Ça vous dit ou pas, Elvira ?
Chance.
Je devine votre sourire sous votre masque bleu.
Là.
J'ai eu de la chance d'aller y faire un tour il y a quelques jours et j'y ai dégusté une pizza, una pizza, mamma mia, una pizza fantastica. C'est notre amie experte italienne Alessandra Pierini qui nous a mis sur la voie de la Gatta Mangiona, une pizzeria à Monteverde. C'est dans ce quartier verdoyant situé bien en dehors du centre historique de Rome que Giancarlo Casa a fait découvrir aux Romains, il y a 21 ans, une espèce de pizza hybride, un peu napolitaine, un peu romaine. Quand je dis qu'elle est un peu napolitaine, c'est qu'elle affiche une fermentation longue, poussée jusqu'à 48 heures. Des cornicione, vous savez, ces trottoirs, ces rebords plutôt gonflés et alvéolés. Mais elle est aussi romaine car la pâte garde, et Giancarlo y tient, une belle croustillance. Elle est quand même assez craquante. La cuisson se fait bien au feu de bois, mais à température moins forte que dans un four napolitain. Et certaines garnitures surtout sont assez couleur locale, vous allez voir. J'ai osé, figurez-vous, déguster une pizza carbonara.
Mais
oui.
Non.
J'ai eu peur, je m'avais bien compris. Qu'on partait sur l'ananas.
Non, pas tout à fait, mais on n'est pas loin. Une pizza carbonara, c'est une pizza avec une garniture à la carbonara.
Ça peut être un peu suspect.
Voilà, garniture oui. Habituellement réservée à la pasta, évidemment. Alors, a priori, vous allez crier à l'hérésie, à l'attentat, à la junk food. À moins que vous changiez d'avis.
Allora, andiamo a préparer une pizza ricotta alla carbonara. Abbiamo una base.
Alors, d'abord, on prépare une pizza ronde traditionnelle sur laquelle on dépose juste un voile de mozzarella fior di latte, mozzarella de vache. On la fait cuire au four juste quelques secondes. On la sort. À la sortie du four, on dépose juste sur la moitié un tout petit peu de mozzarella, du jaune d'œuf battu, du guanciale
et le pepe.
Pecorino romano et du poivre. Et ensuite, on referme la pizza en deux, donc ça va faire en forme de demi-lune.
Tostata a bocca di forno.
On la laisse à l'entrée vraiment du four une petite minute et le pizzaiolo la retourne deux fois de façon qu'elle puisse recuire et toaster plutôt de façon bien uniforme.
Et la cosa importante che c'è questa
la caractéristique de cette pizza, c'est d'être très, très croquante à l'extérieur, avec un intérieur hyper moelleux et fondant.
Dopo averla tagliata in
on a l'habitude ici de servir cette pizza en demi-lune coupée en quatre morceaux,
aggiungiamo
quatre jolis triangles,
et
on saupoudre légèrement encore de pecorino romano avec un tout petit peu du moulin à poivre.
Et la pizza est pronta.
Grazie. Ah là, alors on a une sorte de coussin rembourré. J'avoue, c'est très très bon.
Est-ce qu'on retrouve le goût originel de la carbonara?
C'est très atténué. Il y a beaucoup de fromage. En fait, c'est l'association, c'est le poivre, le pecorino et l'œuf en troisième qui rappelle la carbonara. Mais c'est pas immédiat, donc c'est assez intéressant.
La pâte, elle est bien cuite. Donc elle n'est pas trop molle à l'intérieur, même si à l'intérieur il y a du fromage, j'imagine, du pecorino. Donc c'est très bon. Et le poivre, ça donne un petit goût presque frais. Donc c'est pas une pizza lourde.
Quand elle est arrivée comme ça, j'avais l'impression d'une calzone et comme on peut manger en France. Alors je me suis dit que ça allait être bien lourd ou même d'une sorte de croque-monsieur à l'italienne. Et finalement, voilà, c'est réussi. La pâte est très belle. Alors, elle est carbonisée comme ça en termes d'aspect. Et finalement, elle est parfaitement cuite. On sent le feu de bois et on sent ce poivre.
Bon appétit.
Merci bien.
Merci. Merci à Stéphane, Frédéric et Giorgia, des clients français et italiens à qui j'ai tendu le micro et qui avaient l'air carrément conquis par cette pizza carbonara.
On la visualise très très bien, la pizza.
Non,
là. On l'aimerait bien avec nous en plateau.
Ouais,
là.
C'est une expérience à tenter quand les conditions sanitaires, évidemment, nous permettront de voyager, notamment dans la ville éternelle. Et on pourra aussi choisir beaucoup plus sobrement, pour vous dire que c'est une pizzeria qui a décidément bon goût, par exemple une pizza margherita ou une pizza de saison superbe, cèpe et kaki. Une pizza d'automne absolument magnifique. Ça s'appelle la Gatta Mangiona. C'est la pizzeria familiale de Giancarlo Casa dans le quartier de Monteverde à Rome. Merci beaucoup à Alessandra Pierini qui nous a confié cette adresse et qui assurait d'ailleurs la traduction de notre patron pizzaiolo. Et puis un coup de cœur aussi, allez, pour un hors-série qu'on prendra plaisir à lire en plein confinement. Elle est toute rouge, Elvira. C'est Marie-Claire Food, 100 pages de recettes salivantes, d'articles de société, de portfolio, de jeunes talents de la vigne, piloté eh bien par Elvira Masson. Bravo, joli boulot. Cette recette de spaghetti à l'évongolé m'a fait notamment très envie. Étonnant aussi ce portrait de Massami Charlotte Laveau, hein.
Ah oui, jardinière, qui est une petite ferme florale en permaculture derrière le cimetière de Belleville.
Incroyable.
Qui est dans une démarche hyper vertueuse.
Ouais. Elle n'utilise pas plus de 3 outils pour,
assez
pour rendre
ouais.
très fécond un petit lopin de terre, effectivement, en plein Paris. Incroyable. Et beaucoup de papiers à la fois sociétaux, culinaires, des articles salivants. Vraiment une lecture que je vous recommande. Marie-Claire Food, 5,50 € à retrouver chez votre marchand de journaux.
Merci,
c'est un numéro daté de novembre 2020. Laurent Thomas réalise cette émission en direct avec Julien Dumont à la technique, Margot Page à la préparation. Allez, un petit Catherine pour la route, choisi par notre programmateur musical Djoubaka. Bébé Panda, le chanvre, passe en cuisine dans un instant. Sur France Inter.
Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler. Arrêtez de parler.
Vous disiez que de la merde à une vitesse incroyable. Vous disiez toujours la même chose avec une gueule de comptable. Vous disiez que de la merde dans des positions viriles. Vous disiez toujours la même chose comme si on était débiles. Et vous pouvez, vous saurez, vous savez, vous devez.
Arrêtez de parler.
quant à moi, le bébé panda.
Arrêtez de parler, arrêtez de parler.
Il est à moi.
Arrêtez de parler, arrêtez de parler.
Et tu l'as pris pour toi, le bébé panda. Tu dis que tu ne voyais pas sa maman, son papa. Et il s'est pris pour toi, le bébé panda. Tu dis ça pour le protéger, c'est une espèce menacée.
Cette plante était cultivée en France jusqu'au milieu du XXe siècle pour sa fibre résistante.
Historiquement, c'est la toile, la ficelle, la corde, la marine à voile qui a tiré cette filière vers le haut. Filière qui, dans les années 50-55, a quasiment disparu dans le monde.
L'industrialisation et la prohibition du cannabis ont eu raison de cette culture.
Alors, le chanvre, à l'état naturel, est une plante psychotrope. Elle l'a toujours été, on le sait, les scientifiques, les médecins, les vieux pharmaciens l'utilisaient il y a 70-80 ans. Dans les années 70, l'INRA a créé les premières variétés légales.
Vous voyez pas qu'on va dans le mur ?
Le chanvre fut une culture très enracinée dans les paysages de France jusqu'au milieu du 19e siècle. Elle fut mise à l'écart et elle revient, on va le voir, en force dans notre pays. Depuis quelques décennies, on va même voir que c'est une filière galignante en France et que ses débouchés alimentaires sont particulièrement prometteurs. Je vous propose tout d'abord un premier contact avec le chanvre sur le terrain. Notre reporter Stéphane Combe est allé rendre visite à David Péchard, chanvrier à la chapelle Saint-Martin en Plaine. On est au nord-est de Blois, dans le département du Loir-et-Cher. Au cœur de sa ferme des 4 vents de 210 hectares, il exploite 20 hectares de chanvre.
Donc là, on rentre au cœur de la parcelle de chanvre. Ça a vraiment une odeur caractéristique.
Oui, il y a une odeur. Oui,
il y a une odeur de verre, c'est difficilement descriptible, mais c'est vraiment spécifique au chanvre. On a rarement des plantes qui montent aussi haut. On a le maïs qui est très haut. Donc là, si on regarde un peu plus loin, on a des plants qui font facilement 3 mètres de haut et qui sont bien au-dessus de nous. Le champ de chanvre va atteindre son summum de hauteur quasiment 2 mois et demi après sa plantation. Si les conditions sont là en termes d'humidité et de température, le semis au 1er mai, au 14 juillet, on aura un champ qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut.
On voit des feuilles, bon, on dirait du cannabis.
C'est du cannabis sativa. Donc ça, c'est la variété autorisée pour moi, agriculteur, à cultiver dans mes champs. C'est pas du cannabis indica, qui est la variété utilisée, on va dire, avec beaucoup de psychotropes, du THC à l'intérieur, à hauteur de 30-40%. Nous, aujourd'hui, on est inférieur à 0,2% de THC, ce qui nous autorise à en faire et à le valoriser en alimentation humaine ou, pour la tige, à le valoriser en paillage, isolation. La particularité, c'est qu'on a vraiment tout en haut de cette plante, donc une grappe florale, dans laquelle, si on frotte un petit peu, on a la graine qui apparaît, la graine de chanvre qu'on appelle chêne vie, et c'est celle-là qu'on récolte avec la moissonneuse batteuse.
C'est tout petit, hein.
C'est bombé.
C'est plus petit qu'un grain de riz.
Ça ressemble un peu à du millet, oui, c'est plus petit qu'un grain de riz, c'est un peu plus bombé. Si on la croque...
Ah bah, je vais en croquer.
On a une petite amande à l'intérieur qui rappelle encore une fois l'odeur qu'on a au nez, qui vient au palais. et qui, en fond de bouche, rappelle un peu la noisette. Tu vas le voir.
Ah oui, en effet.
En croquant, on sent un peu. On a ce côté vert au démarrage et noisette en fond de bouche. On va mieux le voir en goûtant l'huile. Et donc, cette graine, si on secoue un peu trop fort la tige, elle va tomber toute seule. Donc, il faut vraiment pas tarder pour récolter, sinon tout va se retrouver par terre. Le chanvre est vraiment une plante vraiment intéressante dans le sens où, sur le côté agronomique, c'est une plante qui nécessite très peu de choses, très peu d'intervention, semis, récolte. Entre les deux, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est très reposant pour moi, agriculteur. Et l'autre aspect, c'est au niveau nutritionnel et gustatif, c'est une plante qui est extrêmement riche, richesse en oméga 3, en oméga 6, donc très intéressante pour ce côté-là. Donc on valorise très bien la graine. Et il y a aussi la paille qui est très bien valorisée en isolation, en paillage, en litière pour animaux, mais également en plasturgie, papeterie, etc. Il y a une multitude de débouchés pour cette plante qui, pour moi, est vraiment une plante magique.
Dans les champs de chanvre de David Péchard, qui cultive 20 hectares de cette plante, dans le département du Loir-et-Cher, Linda Louis, dans votre livre « Super chanvre et CBD aux éditions alternatives », vous l'écrivez « Entrer dans un champ de chanvre est une expérience rare et troublante ».
Oui, tout à fait. En fait, pour les besoins du livre, j'avais besoin de m'immerger en fait dans l'ambiance d'un champ de chanvre. Et donc, en me rendant dans la chanvrière de David Péchard dans le 41 et de Sandy Floquet dans le 18, voilà, au départ, j'ai commencé à prendre des photos. Les plants faisaient 15-20 cm. Et puis, arrivé au mois de juillet, ils faisaient 3 mètres de haut. Donc, du haut de mon 1m78, c'était assez impressionnant de me retrouver dans cette ambiance-là, de ressentir les odeurs qui sont vraiment enivrantes, envoûtantes. Et puis le froissement des feuilles, le bruissement des tiges. C'est une expérience à faire et très apaisante. Oui.
David Péchard qualifie cette plante de magique. Et ce n'est pas le seul, et ce n'est pas un illuminé qui nous parle. C'est un agriculteur qui a vraiment les pieds dans la terre, bien enracinés. Il a la tête sur les épaules. Mmh. Il nous dit que c'est une plante magique. Est-ce qu'elle détiendrait vraiment ses pouvoirs extraordinaires?
En fait, c'est une plante couteau suisse. Déjà, au niveau de la culture, elle est très facile à implanter. Elle résiste à la chaleur et par les temps qui courent, je pense que c'est un atout important. Elle se fixe très bien dans le sol. C'est aussi un hôte pour toute une faune, toute une petite faune aussi qui peut être protégée dans ses champs. Intéressante aussi au niveau forcément nutritionnel, ça on va le voir, avec une très très grande teneur en protéines. Donc ça c'est particulièrement recherché par les sportifs. Mmh. Et puis une plante aussi qui a beaucoup de produits dérivés. Donc on peut aussi bien avoir donc les graines entières décortiquées que l'on peut toaster ou pas. À partir de ces graines, on produit de l'huile. Le résidu extrait de cette huile produit une farine qui, concentrée, défibrée, peut produire aussi une protéine, donc qui est une poudre également. Et avec, on peut faire une multitude de recettes.
Voilà. Vous me disiez d'ailleurs, Linda, petite parenthèse en préparant cette émission, qu'Interchanvre, la filière, et on va voir que le chanvre français est particulièrement dynamique au niveau mondial avec tous ses débouchés possibles. On va encore une fois examiner son rôle possible d'ailleurs dans l'agriculture du futur. Il y a des recherches, des expérimentations très pointues en train de se faire sur la farine de chanvre notamment.
Alors justement, Nathalie Fichaud d'Interchanvre m'expliquait que donc la farine de chanvre que l'on trouve actuellement est réalisée à partir des graines qui sont entières. Mmh. Donc c'est une farine qui est vert kaki, mais qui contient effectivement quand même un bon taux de protéines. Là, on commence à faire des tests sur de la farine produite à partir de graines décortiquées, mmh, qui seraient blanches et qui atteindraient un taux de protéines de 50 à 60%.
Autant dire quasiment inégalé.
Exactement, et absolument inégalé, le soja peut aller se rhabiller.
C'est ça, voilà. C'est absolument stupéfiant. Arnaud ?
Juste un détail et un frein. Aujourd'hui, on fait du chanvre un peu comme si on voulait faire des carottes sans vitamine C ou sans carotène. Donc c'est vrai que génétiquement c'est un peu gênant. Ça c'est pour des raisons légales, hein. C'est pour cette teneur basse en THC.
Alors on va parler justement de son rapport
au
cannabis.
De fait, on est bridé quand même. On l'est, et légalement à un moment donné, il va falloir prendre des décisions un peu intelligentes là-dessus si on veut voir la filière évoluer vraiment comme il faut. Donc c'est toujours un peu délicat d'en parler comme ça puisque c'est connoté, c'est illégal, voilà. Nous on est sur la loi de 1978, là-dessus, je pense qu'on pourrait peut-être pousser le curseur un poil plus loin et demander aux législateurs de un peu réfléchir à ce sujet, qui est aussi un sujet social, qui est aussi un sujet vraiment pénal. 60% des gens en préventive sont liés à des trafics de cannabis. Donc je pense qu'aujourd'hui, collectivement, on est dans le devoir de réfléchir à ça, tranquillement. Mm-hmm. Surtout que ces espèces monoïques-là, enfin celles qui ne sont pas différenciées sexuellement, qu'on utilise aujourd'hui dans le cannabis, ne sont pas, sans doute pas, sûrement pas, les plus adaptées à ce qu'on voudrait faire in fine. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui s'en occupent aujourd'hui, et notamment Vincent Lartizien, qui s'occupe des chanvres de l'Atlantique, dont on pourra parler après, qui est un des pionniers là-dedans, et qui investit lourdement, et il a raison, et qui est en train de construire une usine en béton de chanvre à côté d'Ossegor, et qui a envie, et il a raison, de créer une gamme absolument complète et performante avec cette plante-là, mais il faut qu'on étudie un peu cette génétique-là et qu'on regarde vraiment les bienfaits et qu'on fasse le vrai poids bénéfice-risque. Voilà.
Parce que ce à quoi vous faites allusion, c'est peut-être un peu confus pour l'auditeur derrière son transistor, enfin ou derrière son poste de radio, mais l'idée effectivement c'est que il y a souvent évidemment, et on le voit d'ailleurs à la teneur des nombreux commentaires sur les réseaux sociaux de France Inter, cette espèce de confusion, parfois sciemment entretenue par certains producteurs entre chanvre et cannabis. Il est vrai que sur les emballages des produits que nous avons avec nous, là j'ai une poche remplie de graines de chanvre entières, avec évidemment cette fameuse feuille stylisée un peu en étoile, avec ses feuilles dentelées, parfois, ou même sur votre livre, hein, avec ses feuilles, etc. On pourrait se croire dans un coffee shop à Amsterdam, ou on pourrait se croire sur la pochette d'un album de reggae des années 70. Chanvre, cannabis ou chanvre, marijuana. Plus que relation incestueuse, puisque en termes de parenté, on a affaire en fait à la même plante.
Exactement.
Alors expliquez-nous comment il est possible effectivement de produire du chanvre en toute légalité.
Alors, bon, je pense qu'il est important de distinguer déjà les deux plantes. Donc il s'agit effectivement de la même plante, donc c'est cannabis sativa. Et donc le cannabis, lui, est une plante qui contient du THC, donc qui est une substance psychotrope qui génère une dépendance, qui peut être, on va dire, l'usage peut être aussi bien récréatif que médical. Donc là, c'est en cours. Et vous avez ensuite le cannabis sativa, donc qui est lui et donc le chanvre, qui porte le même nom en fait. Et donc là, l'usage est textile, alimentaire, industriel. Donc les plantes se ressemblent énormément puisqu'elles forment les mêmes feuilles, donc des feuilles palmatilobées, donc celles que l'on connaît. Le chanvre, lui, ne contient pas du tout de THC.
Il en contient 0,2%.
Moins de 0,2%. Donc c'est pour ça que les chanvriers.
Alors que le cannabis, on est dans les 40-60%.
Non. On peut déjà à partir de 8-10% de THC. Déjà, on peut sentir déjà les effets. Mm-hmm. 40%, là, on est sur des.
Non, mais ça c'est
des skunks hollandaises, absolument. Voilà. Donc ça c'est pas. Voilà. Mais en tout cas, le chanvre français donc est parfaitement contrôlé, légal. 30% des cultures de chanvre sont contrôlées en France chaque année. Donc c'est l'une des cultures les plus contrôlées. Et puis, voilà, il ne contient pas du tout de THC, donc vous pourrez manger des kilos de chanvre. Bon, au mieux, voilà, vous aurez un peu mal au ventre parce que vous en aurez trop mangé, mais à aucun moment, ça vous donnera des effets psychotropes.
Pas de THC, mais du CBD, en revanche.
Alors, il y en a aussi, en fait, dans le cannabis.
Alors, attendez, là, vous lâchez un sigle qui est CBD. Mmh. Il est vrai qu'on a de nombreuses questions sur le sujet. CBD et chanvre, CBD, racontez-nous.
Alors, le CBD, donc, c'est une molécule, un phytocannabinoïde, qu'on appelle cannabidiol, donc, qu'on appelle effectivement CBD. Et le CBD est une substance, en fait, qui ne génère absolument aucune dépendance, qui est classée dans le chanvre bien-être. Donc, elle est cette molécule est légale, autorisée en France uniquement sous forme d'huile, mais la différence en fait du cannabis, elle n'est pas psychotrope. Les deux plantes sont psychoactives, oui. Les deux substances sont psychoactives, c'est-à-dire qu'elles agissent sur le cerveau, mais le cannabis lui est psychotrope. Dépendance, altération sensorielle. Le CBD, lui, ne joue absolument pas là-dessus. Il va jouer sur différents récepteurs qui sont très différents.
Comment on obtient le CBD ? De quelle substance s'agit-il ?
Non, le CBD est extrait à partir des fleurs, oui. Issues de variétés qui sont sélectionnées.
Donc on la trouve en fait sous forme d'élixir, d'huile ?
Alors on la trouve sous forme d'huile en France, et c'est cette huile-là qui est autorisée. Dans d'autres pays d'Europe, on la trouve sous forme de résine, sous forme de fleurs. Et voilà. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a de l'huile de CBD française, puisque en France, il est interdit encore pour le moment de produire des variétés de chanvre à usage CBD.
Pour l'instant, c'est que le chanvre industriel et textile. Voilà.
Donc, lorsque vous utilisez l'Indaloui en cuisine du CBD, parce qu'il y a des vertus à la fois médicinales, mais également gustatives, aromatiques, vous vous procurez où cette petite fiole d'huile de CBD?
Alors, moi, je la trouve sur les sites internet, notamment Saveur CBD, parce que eux, ils jouent le jeu d'utiliser, de mélanger ces extraits avec de l'huile de chanvre bio et française. Mais par contre, l'extrait de CBD, lui, vient d'Europe, de pays qui ont autorisé cette culture. Voilà.
Et vous nous en rappelez les vertus? Apaisante, elle favorise notamment un sommeil de qualité.
Sommeil de qualité, en fait, le CBD permet de réguler, l'homéostasie. L'homéostasie, c'est tout ce qui nous fait vivre. C'est le sommeil. Ça régule le stress, l'appétit, la sexualité, tout un tas de choses, l'anxiété, aussi le système immunitaire. Donc en fait, cette plante est vraiment là pour auto-réguler ce que nous régulons déjà dans notre organisme et ce qui peut être contrarié par les événements extérieurs.
Les derniers jours de mon père ont été largement adoucis par ce produit que ma sœur lui a envoyé des États-Unis. Et aujourd'hui, il aide ma vieille maman à dormir un peu mieux.
C'est le CBD.
Le CBD, oui, absolument.
D'ailleurs, on trouve de plus en plus de tisanes de CBD.
Un tout petit mot sur la dépendance, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est plutôt de l'accoutumance dont il faudrait parler. Il n'y a pas de dépendance au THC, voilà, c'est tout.
Ah, plus de l'accoutumance. Bon,
soyons clairs.
On fera un débat sur le cannabis.
Il n'y a pas de manque de THC, ça n'existe pas.
Ça reste évidemment une substance interdite. On se concentre aujourd'hui évidemment sur le chanvre. Et je vous propose justement d'ailleurs de retourner à la ferme des 80 de David Péchard, notre producteur de chanvre dans le Val-de-Loire, près de Blois. Notre reporter Stéphane Combe enfourche une drôle de moissonneuse batteuse pour la récolte des graines.
Oh là là. On ferme la porte.
Attention. Donc là, je mets en route la batteuse. Donc c'est ce qui est sous nos pieds, qui va battre la paille de chanvre et le grain pour le détacher de la plante. Et donc ça va nous permettre après de séparer la paille du grain. Et juste avant d'arriver, on va mettre en route la coupe, qui est le deuxième organe de la moissonneuse batteuse. Je vais accélérer le régime moteur.
Alors là, il y a une espèce de roue avec des piquants qui est devant nous, qui est en train de tourner.
Ça va rabattre les graines dans l'intérieur de la machine. Et si on regarde derrière nous, on voit le grain qui est en train de couler, qui est détaché de la plante. Donc on voit, ça c'est le travail de la moissonneuse, sous nos pieds encore une fois. Donc là on l'a réglé pour le chanvre, à savoir un battage assez doux pour pas abîmer trop la graine, parce que c'est une graine qui est extrêmement sensible, qui est très fragile. Et si on l'abîme de trop, on aura une qualité d'huile derrière ou une qualité de graine qui sera pas bonne pour l'alimentation humaine. Donc là si on regarde vraiment au pied du chanvre, là je suis en bio, donc tout est, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien du tout qui est fait sur le chanvre. Regardez au pied, c'est vraiment nickel, il n'y a rien d'autre qui a poussé que le chanvre. Le chanvre a cette capacité-là d'étouffer les mauvaises herbes, de pousser très très vite et d'étouffer tout ce qui peut pousser à côté d'elle. Et donc on a derrière un champ super propre. Et donc c'est une culture en bio qui est extrêmement intéressante. On voit que le chanvre a quand même subi la sécheresse de cet été, dans le sens où ce qu'on peut appeler la hampe florale, la partie où il y a les graines, est vraiment toute petite. D'habitude on a des hauteurs d'étage de graines qui est bien plus important que ça. Et donc, comme beaucoup d'autres cultures, le chanvre a quand même, malgré sa résistance, c'est une plante qui est très résistante à la sécheresse, malgré cela, on n'aura pas, je pense, un rendement extraordinaire cette année, mais c'est pas dramatique. On va voir à la fin du champ ce qu'on aura récolté.
Et voilà comment on obtient des graines de chanvre, lesquelles peuvent se retrouver dans des pochettes que l'on peut acheter dans les magasins d'alimentation bio. Alors attention, pour utiliser, on va vous proposer une recette assez incroyable, toute simple à réaliser. Simplement, il faut des graines, et il y a des graines de divers états. D'ailleurs, on a des questions à ce sujet, Elvira Masson.
Oui, notamment Isabelle nous écrit « Bonjour, j'ai acheté un jour des graines de chanvre non décortiquées en magasin bio. » C'était vraiment dur et inutilisable, même pour saupoudrer sur une salade. Comment est-ce que je peux m'en sortir?
Moi, j'ai des graines de chanvre entières, par exemple, effectivement, d'origine française, un paquet de 200 grammes. Et elles ont la réputation d'être assez revêches sous la dent. Que se passe-t-il, Linda?
D'où la robustesse, effectivement, du chanvre. En fait, ce qu'il faut, c'est que les graines de chanvre qui sont entières, il faut les faire toaster. Le fait de les faire toaster à la poêle, donc à sec, sans huile, on les fait toaster à feu doux pendant à peu près...
Ou éventuellement au four?
On peut faire au four, mais je pense que bon, à la poêle c'est plus rapide, et puis on les entend un tout petit peu commencer à crépiter. Il faut remuer la poêle régulièrement, et à partir de là, déjà, on va déstructurer en fait le péricarpe de la graine, qui va déjà être un peu plus croustillant. Donc ça, c'est la première.
Donc elles deviennent friables à ce moment-là.
Alors,
un peu.
on va dire, un peu plus masticable. Voilà. Alors, l'idée, la solution, c'est en fait, c'est de mixer ensuite ces graines de chanvre qui ont été toastées, pour, notamment avec du sel, pour faire ce qu'on appelle un gomasio, qui est un condiment japonais, où on va généralement utiliser 90% de graines de sésame et 10% de sel.
Et là, on remplace les graines de sésame.
Exactement, par des graines de chanvre. Et donc, ces graines, une fois toastées, vous les laissez refroidir, sinon ça fait de l'huile. Si vous les mixez trop vite, vous ajoutez du sel, vous mixez avec le sel, et on obtient donc un condiment qui permet de profiter des bienfaits nutritionnels du chanvre sans se casser les dents.
Enfin, comment pourrait-on, vous avez là un paquet de graines, où sont-elles? Des graines, vous m'avez parlé de graines toastées notamment.
Alors les graines toastées sont ici.
Comment faut-il aller, un petit cobaye à côté de vous, comment faut-il imaginer le goût de ces graines toastées? Il y a, je crois, vraiment une dimension noisetée.
Alors, il y a une dimension noisetée, effectivement. Vous avez aussi un petit peu un goût terreux qu'on va retrouver dans le chanvre, dans la graine crue.
Là, elles sont parfaitement toastées.
Merci. On retrouve en fait des arômes très présents, notamment également dans le cannabis, qu'on appelle les terpènes. Donc on va retrouver du myrcène, du limonène. Donc tous ces terpènes qui donnent...
Assez vert.
Alors, on peut avoir des notes vertes, des notes de clou de girofle avec le myrcène, des notes un peu plus citronnées, agrumes avec...
On est presque sur le pignon, là. Le pignon,
oui,
noisette,
c'est possible,
un truc
oui.
comme ça. C'est presque...
Ouais. Et c'est surtout délicieux.
Et puis, la saveur peut être très complexe, parce que ça dépend de la manière dont on torréfie, etc. Donc, et puis aussi des variétés de graines de chanvre.
Est-ce que la torréfaction supprime un certain nombre de qualités nutritionnelles de la graine?
Je ne pense pas, parce que voilà. Après, bon, c'est sûr que si on veut vraiment tout de même quand même profiter notamment des lipides, vaut mieux consommer l'huile crue. C'est pour ça que c'est une huile qu'on ne chauffe pas. Là, c'est sûr que les graines de chanvre toastées, on est plus sur le côté gastronomie, condimentaire, aromatique. C'est pas forcément le côté nutritionnel qu'on va rechercher.
Je retrouve la graine de tournesol. Là. La graine de tournesol. Et dites-moi, le profil nutritionnel, alors là, on est parfait, 8 acides gras essentiels pour la graine de chanvre, comme le soja et le quinoa d'ailleurs, 45% de lipides, réputés pour leur richesse en acides gras essentiels. Tout ça, je l'ai évidemment lu dans votre livre, avec un rapport idéal, vous le disiez, entre oméga 3 et oméga 6.
Exactement, donc il y a un rapport idéal donc dans cette huile, ce qui n'est pas le cas des autres huiles. Donc c'est en ça que c'est une huile aussi qui effectivement est peut-être un peu plus chère que les autres huiles, parce qu'elle demande déjà beaucoup plus de temps d'extraction. C'est une huile qui est précieuse, on va en ajouter une petite cuillère à soupe dans une salade et c'est tout.
On va parler dans un instant de l'huile justement, puisqu'on va assister au pressage de ces graines chez notre ami David Péchard, mais... Arrêtons-nous sur une recette là qu'on peut qualifier sans fausse promesse de miraculeuse. Franchement, elle est tout à fait étonnante. C'est une recette d'ailleurs qui buzz pas mal, entre guillemets, dans le gastrocosme. Elle est à la page 82 de votre livre Super Chanvre et CBD. C'est le hemp fou. Est-ce que je prononce bien?
Oui, mal, avec le H aspiré, très bien.
Expliquez-nous ce néologisme.
Donc le hemp fou, c'est en fait du tofu réalisé à partir de graines de chanvre. Donc la recette est on ne peut plus simple. Vous prenez des graines de chanvre décortiquées. Vous ajoutez le même...
Torréfiées ou pas torréfiées?
Pas torréfiées.
Okay.
Non, là elles sont décortiquées tout simplement.
Et elles se trouvent comme ça dans cet état-là, dans les magasins bio?
Dans les magasins bio, on trouve décortiquées et décortiquées et entières. Donc là on prend des décortiquées, donc elles sont blanches teintées de vert. On les mixe avec le même poids d'eau, on obtient une pâte qui est un peu à la couleur d'une béchamel pailletée de poivre, très très crémeuse. Vous disposez en fait cette pâte dans un petit moule en inox chemisé de papier sulfurisé, vous faites cuire à la vapeur pendant 15 minutes et vous obtenez un bloc carré béton, aussi béton qu'un tofu de soja. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le chanvre contient un très fort taux d'albumine que l'on trouve dans le sang, que l'on trouve en fait dans le blanc d'œuf, et qui coagule à 70 degrés.
Donc beaucoup plus facile à faire que du tofu avec des graines de soja dont on ne connaît pas forcément la provenance. Là, on fait une espèce de tofu champêtre en quelque sorte, et tout à fait naturel, très protéiné.
Un tofu gaulois.
Un tofu gaulois.
C'est si bon.
Et vous aimez?
Ah, j'adore.
C'est très bon.
À la fois, c'est un côté comme ça, assez végétal, limite un tout petit peu iodé, et il y a un côté aussi un tout petit peu cacahuète sur les bords. C'est ça.
On peut torréfier avec ça.
Pour nos amis végétariens, végétaliens, pour tous ceux qui veulent aussi freiner un peu sur les protéines animales, le hemfou de Linda Louis qui est en ligne, évidemment, la recette sur franceinter.fr à la page on va déguster, et dans votre livre extrêmement documenté, on voit là une super idée. C'est très bon, effectivement, c'est déclinable de toutes les façons. On peut ensuite le repoêler. On peut le condimenter avec éventuellement un peu d'olive.
On peut le faire mariner avec de la sauce soja, de l'huile. On peut le mixer, le tartiner.
On peut le faire fumer.
Oui, absolument.
On peut le faire fumer.
On peut le fumer.
Mfou fumé. C'est dur à dire. Mfou fumé.
Mfou fumé. Mfou fumé, absolument. Écoutez, en tout cas, c'est une très très belle découverte. Et il y en aura d'autres dans cette émission. Mais on fait une petite pause avec le coup de lame d'Arnaud Daguin.
France Inter. On va déguster.
Le chanvre, cette plante à la feuille célèbre qu'on voit s'épanouir sur tant de t-shirts et de tatouages. Cette feuille aux fines folioles est révérée tel un symbole par des gens cool du monde entier. Pourquoi n'arborent-ils pas plutôt sur leur blouson clouté une feuille de persil ou bien de bananier, une fleur de lin ou un épi de blé? Pourquoi? Parce que ces jeunes gens bien informés savent que le chanvre est une plante aux pouvoirs infinis. Incroyable tout ce qu'on peut faire avec le chanvre. Non, François-Régis, je n'ai pas dit stupéfiant. On en fait les voiles des bateaux et la corde des pendus. On en fait des housses de couette et des mayonnaises. Quelle autre plante peut en dire autant? Le rosier? Le muguet? La ciguë? Le chanvre est un vieux compagnon de route. Il nous fait voyager depuis l'aube des temps. La voile de chanvre est le plus ancien moteur de l'humanité. Avec le chanvre, on tresse les cordages des navires et on tisse les tentes des nomades. Il nous abrite et nous habille. Ah, traîner en robe de chanvre. Le chanvre nous embellit aussi. En cosmétique, il est fantastique. Il nourrit notre épiderme et répare nos pointes fourchues. Et bien entendu, le chanvre nous nourrit. Il nous nourrit car il est gras. Et le gras, c'est la vie, comme nous le savons. Le chanvre a l'intelligence d'être gras comme il faut. Il contient un max d'oméga 3 et en ces temps de mascarade, c'est pas du luxe. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cuisine. Il faut dire que vous en parlez tous tellement bien ici. Je vous donne aujourd'hui la recette exclusive du pesto de chanvre qui nourrit votre santé et pas l'industrie pharmaceutique.
Écoutez bien.
C'est au mortier que ça se passe. 2 gousses d'ail rose, du Tarn, pelées et égermées. 5 cuillères à soupe de graines de chanvre décortiquées. Quelques feuilles de basilic ou toute autre verdure odorante que vous aurez sous la main. 1 demi-verre d'huile de chanvre, 1 demi-verre d'huile d'olive et hardi au pilon. Le résultat sera plus ou moins lié en fonction de l'huile de coude que vous y aurez mis, mais dans tous les cas, vous obtiendrez là de quoi pimper le plus humble de vos raviolis ou le plus ambitieux de vos risottos. Et de surcroît, vous aurez la satisfaction infinie de manger juste. Vous verrez, François-Régis, c'est stupéfiant.
Pas mal, et il fait envie ce pesto.
Et à défaut de basilic, vous mettez quoi?
Moi, j'ai une sauge qui va très bien
De l'ortie,
sur mon balcon.
De l'ortie aussi. Ouais.
De l'ortie, oui.
On en est sur du local.
Enfin, tout ce qui est un peu aromatique comme ça, qui va relever le truc et qui tienne le choc avec l'ail. Hein, parce que
de l'ail. De gousses quand même.
De gousses d'ail, ça me fait. Mais c'est important. C'est important.
Génial, bravo. Vous nous avez apporté aussi une sacrée découverte. On s'est tous jetés dessus en début d'émission. Une petite confiserie magnifique à base de graines de chanvre. Preuve que cette petite graine, eh bien, de nombreux pâtissiers vont en prendre de cette graine.
Oui, c'est de la nougatine aux graines de chanvre. Donc, j'avoue que l'idée n'est pas de moi. J'aurais aimé l'avoir pour mon livre. Elle est de Florian Rotureau, qui est pâtissier à Perlevade, en Corrèze, que j'ai contacté dans le cadre de ce livre et qui m'a donné quelques pistes de recettes très pâtissières. Donc c'est tout simplement un caramel réalisé qu'on peut faire avec de l'eau, mais c'est un peu moins pratique, mais à sec. Donc vous prenez 100 g de sucre que vous ajoutez en pluie donc dans une casserole ou dans une poêle. Quand la couleur est bien teintée de marron doré, on ajoute un peu de beurre ou un peu d'huile de chanvre pour casser en fait la cuisson, sinon après ça peut brûler. Et ensuite, on ajoute des graines de chanvre, on mélange, on étale entre 2 feuilles de papier sulfurisé, 1 coup de rouleau et on obtient cette dentelle de nougatine. C'est
magnifique.
Délicieux.
C'est la version un peu bucolique, champêtre, on va dire la version France profonde de, vous savez, cette petite nougatine chinoise aux graines de sésame.
Ah, complètement, ouais.
C'est délicieux.
Mais surtout, la présence du chanvre casse le côté sucrayeux de la nougatine qu'on adore, mais là, ça rafraîchit un peu, quoi. Oui, puis c'est vrai que la graine de chanvre a une petite pointe d'amertume qui n'est pas toujours appréciée. Je sais que ma fille n'aime pas les graines de chanvre, mais en nougatine, là, pour le coup, elle adore.
Et on sent pourtant cette note noisetée. Rappelez-nous le nom de cet immense talent qui fait cette nougatine.
Florian Rotureau, qui est situé à Perlevade, en Corrèze.
En Corrèze, Creuse, voilà aussi des départements très très penchés sur la culture du chanvre. On va parler d'ailleurs dans un instant à la fois de l'huile de chanvre, qui est aussi un sacré élixir à utiliser en cuisine, mais également de la vitalité, du dynamisme de la filière chanvre en France. Petit cocorico.
Everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Feel just like I'm 10 years old. Everything is new and surprising.
You don't have to dig too deep to find out your effect on me. 'Cause everybody that I know can see, and they're asking me, what is going on in your life? Oh, everything you touch is gold. That is why my soul is shining. Our story is not yet told. Stop mining. I don't have to dig to see my treasure standing right in front of me. Everyone that I know is asking me,
dernier drink dans mon living. C'est la voix chaude et groovy de Gregory Porter. Everything you can touch is gold.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
En parlant de gold, il y a une plante en or au menu dont on va déguster aujourd'hui grâce à Linda Louis, autrice de Super Chanvre et CBD, botanique, culture, bienfait, plus 50 recettes protéinées aux éditions alternatives. Le livre, si vous voulez vous passionner ou vous intéresser au sujet du chanvre, vraiment le livre de référence à obtenir, parfaitement documenté. On parlait de cette filière chanvre en France, il est vrai qu'elle est particulièrement dynamique. 20 000 hectares cultivés, la France est le quatrième pays producteur de chanvre au monde. Et rappelons que c'est une culture qui a, en gros, qui coche un peu toutes les cases de l'agroécologie, et notamment par le fait qu'elle se passe totalement de produits phytosanitaires.
Exactement.
Il y a ça, et puis il y a le fait qu'on fait quatre récoltes avec le chanvre. Il y a ce qui est sous le sol et qui va donc apporter du carbone, et ça, vous savez que c'est aujourd'hui une clé. Il y a les menus paille qui vont aussi faire un apport de carbone. Ça, c'est la première récolte. Il y a la fibre qui est la deuxième. Il y a les graines et l'alimentaire qui est la troisième, et tous les produits pharmaceutiques qu'on peut en tirer. Et ça, c'est la quatrième. Et donc, en plus de ça, les pivots, les racines de cette plante aère très très bien les sols et permettent et nettoient en fin de rotation. On fait souvent le chanvre à la fin d'une rotation. Hein. Évidemment, on ne fait pas que du chanvre.
Ça augmente de 10%
ça en fait. Pas, la monoculture, ouais. Et ça nettoie tout, entre guillemets, c'est-à-dire ça empêche vraiment les adventices. Là, je viens de recevoir une photo de David Guy, qui est un agriculteur, je pense en Vendée, et qui me montre un semi-direct bio de céréales après un chanvre bio. Le chanvre est incroyable, dit-il, et permet d'envisager le non-travail du sol en bio.
Et ça, c'est un message que vous recevez en direct.
Oui, là, maintenant. Là,
et rappelons que des sentinelles du chanvre, il y en a un peu partout, dans pas mal de régions françaises. Alors, on avait cité Vincent Lartizian en Nouvelle-Aquitaine.
Oui.
On a également en Bretagne.
Alors, nous avons en Bretagne Christophe Latouche, de la société Elle Chanvre, qui est un pionnier du chanvre, qui a été l'un des premiers, en fait, à vendre des graines de chanvre, de l'huile de chanvre. Et il est aussi l'inventeur d'une machine qui permet de décortiquer les graines de chanvre. Donc, par exemple, David Péchard, lui, ses graines, donc il les récolte, donc évidemment entières.
Dans Loir-et-Cher.
Et pour ensuite les commercialiser, en fait, donc il passe par Christophe Latouche, qui est très connu dans le milieu du chanvre et a beaucoup joué dans la promotion de cette plante.
Filière très dynamique, on le rappelle, Elvira.
Et en Bretagne toujours, Dominique, une auditrice qui se dit jardinière et cuisinière en Finistère, nous demande s'il est possible de cultiver le chanvre en Bretagne pour une consommation culinaire familiale, dans son jardin, quoi.
Alors, on a le droit de planter des plants, des graines de chanvre, mais il faut les demander à un agriculteur qui peut certifier sur le paquet que ce sont bien des graines de chanvre françaises, qui sont contrôlées, qui ont un taux THC inférieur à 0,2%. Ensuite, il faut informer la gendarmerie qu'on plante des pieds de chanvre dans son jardin. Parce qu'à tout moment, effectivement, on peut être dénoncé par un voisin qui pense avoir un pied de cannabis.
Ça ressemble tellement, n'est-ce pas ?
Ça y ressemble, mais pas tant que ça, en fait. Parce que le chanvre, lui, a quand même cette particularité d'être une plante très gracile, très haute, qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres.
Ça, c'est pour les fibres.
Voilà. Pour les fibres,
celles
effectivement.
Celles qu'on fait pour les graines, elles peuvent ne pas monter aussi haut. On a plusieurs génétiques en ce moment à disposition. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet, ça viendra très vite. Parce qu'il va falloir prendre des décisions là-dessus, mais effectivement, on n'a pas de filature en France, par exemple, pour les fibres longues. On a des filatures, vous savez, pour le lin, par exemple, donc 50 cm et pas plus. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal pour le textile. Il faut qu'on envoie notre chanvre à l'étranger pour le faire filer, ce qui est quand même un peu bêta.
Ouais.
Voilà. Donc,
je me permets juste
un petit complément.
Un tout petit mot. Le chanvre, en fait, forcément cherche de la hauteur, puisqu'en fait, la concentration, en fait, du semis est tellement importante qu'à un moment donné, les plantes sont toutes serrées les unes contre les autres, et on cherche, dans tous les cas, à un moment donné, la plante cherche à s'élever. Donc, même les plantes, même le chanvre, voilà, se retrouve quand même au minimum à 2 mètres, 3 mètres de haut, dans tous
les
cas.
Une plante très longiligne, ce qui donne cet effet de jungle, effectivement, quand on a la chance, évidemment, de s'y promener. Du chanvre, on passe à une autre plante au pouvoir aussi très intéressant.
On va déguster sur France Inter.
On quitte le champ de chanvre, Elvira, pour...
Et on part en Éthiopie.
Ah, carrément.
On quitte le chanvre pour le TEF, T-E-2-F. C'est la céréale reine des hauts plateaux éthiopiens. C'est une graminée que l'on compare parfois au millet, qui est essentielle à la cuisine éthiopienne. Transformée en farine, elle sert à fabriquer l'injera, une galette fermentée de couleur sable, sur laquelle les cuisinières éthiopiennes disposent des purées de légumes, des viandes lentement mijotées, et que l'on mange depuis des siècles en Éthiopie et en Érythrée. Alors le TEF est une graine minuscule, on dit que ce serait la plus petite du monde, aux propriétés également assez exceptionnelles. On parle d'ailleurs de super céréales, bourrées de fibres, contenant tous les acides aminés essentiels, riches en protéines, dépourvues de gluten. Elle nourrit les hommes donc, et sert aussi au fourrage. Elle est d'ailleurs testée à cette fin en France, notamment en Charente en ce moment. Le TEF est résistant et adaptable. Il s'acclimate à l'aridité aussi bien qu'au sol gorgé d'eau. Donc c'est vraiment une céréale très versatile. Il a évidemment été la cible des prédateurs de l'agroalimentaire. Une cargaison de TEF expédiée en 2003 aux Pays-Bas a fait la fortune d'une petite société privée néerlandaise qui a prospéré sur un brevet européen s'appropriant l'utilisation de la super céréale. En 2018, le gouvernement éthiopien a fini par intenter une action en justice pour faire annuler ce brevet qui bloquait l'exportation de la graine de TEF vers plusieurs pays. Et en 2019, la bataille a finalement été remportée par l'Éthiopie. Alors on commence à le trouver chez nous, le TEF, je pense que Linda, vous le connaissez bien, à la fois sous sa forme de graines et encore plus fréquemment sous forme de farine. Elle a un goût assez singulier, cette farine prononcée. Je dirais qu'on est proche de la noisette, mais une noisette un peu cacaotée, avec une pointe d'amertume qui convient très bien, je trouve, aux recettes sucrées. Ça m'arrange. Je vous ai d'ailleurs préparé ce matin des pancakes, largement inspirés d'une recette de Jennifer Hart Smith que nous avons reçue ici récemment, qui décidément sait vraiment tout faire. Ce sont donc des pancakes à la farine de TEF et au lait ribo, sans gluten, que j'ai copieusement, pas si copieusement que ça d'ailleurs, garni de compote de pommes, de noix de pécan et de sirop de fleurs de coco. Donc je ne sais pas si vous sentez à la fois ce côté un peu cacaoté et un petit peu amer quand même.
C'est tellement bon.
C'est bon.
C'est vrai ?
Ah ouais.
Super.
Moelleux.
Donc c'est très simple. On sépare les jaunes d'œufs, on réserve les blancs. On mélange la matière sèche, farine, sucre complet, poudre à lever, sel. On incorpore un petit peu d'huile végétale neutre. Les jaunes d'œufs, le lait ribo, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on monte les blancs en neige au fouet, au batteur. Et une fois qu'ils sont montés en neige, on les incorpore à la préparation précédente. Et on les cuit en essayant de pas faire, de les cuire un petit peu, de disposer la pâte de façon un petit peu verticale pour que ça monte un peu. Et on les sert avec ce qu'on veut. Ben, là, en l'occurrence,
et on obtient un pancake avec ses petits trous. Alors, il est assez sombre, il est assez beige marron.
Oui, c'est une farine. Oui, c'est une farine assez sombre en effet.
Et l'amertume, elle vient un tout petit peu en fin de bouche. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Linda ?
Je vous prépare de la mousse au chocolat aux graines de chanvre avec de l'huile de CBD dedans pour bien nous détendre.
Les pancakes, non ?
On peut.
Voilà quelqu'un qui sait me parler.
Alors j'ai beaucoup pensé au TEF, François Régis, en égrenant les chapitres de ce livre qui est entre les mains que je vous passe, qui s'appelle Une agriculture du vivant, sous-titré Réconcilier la terre et les hommes, paru chez un petit éditeur indépendant, et on sait à quel point c'est plus que jamais le moment de soutenir les petites maisons indépendantes, qui s'appelle les éditions Libres et Solidaires dans la collection Autonomia. Le destin de cette petite graine vaillante qui a dû lutter pour échapper à l'avidité des prédateurs est en phase avec cet ouvrage collectif qui rassemble une vingtaine de collaborations de scientifiques, de chercheurs, de paysans, tous pionniers de l'agroécologie, des sols vivants, tous engagés pour une agriculture résiliente, dont le but est de nous permettre de vivre tous en harmonie, dans le respect des sols, du vivant et de l'autonomie des paysans. Certains textes sont assez techniques, je suis encore en train de les lire. D'autres sont vraiment carrément exaltants. Je pense notamment à l'hommage vibrant rendu par l'agronome Baptiste Maître aux vers de terre, dont il dit qu'ils sont souvent présentés comme les ingénieurs du sol, mais qu'il aime à décrire comme les chefs d'orchestre. Pour finir, je voudrais lire quelques lignes de la préface du livre. J'ai encore le temps ?
Oui.
On peut décrire l'agriculture idéale comme la production d'une biomasse énorme, divisée en trois parts qui remplissent trois missions. Une part qui alimente les hommes et leurs bêtes, une part pour nourrir le sol, la troisième dédiée à produire de l'énergie ou des biomatériaux. Cette agriculture, nous devons la faire avec le vivant et non plus contre lui. C'est une agriculture de la compréhension, de la sensation, de l'émotion, du partage spontané et de la coopération bordélique et créative. Une autre façon de voir le monde en baignant dedans et non plus en la regardant du haut du plongeoir. Il vous rappelle quelque chose ou quelqu'un, ce propos ?
Ah, moi j'ai une petite idée parce que je viens de comprendre. Ouais, préface.
Arnaud Daguin.
Bah, il est dedans. C'est Arnaud Daguin qui a commis ça et qui a préfacé cet ouvrage.
C'est un super ouvrage, je vous le dis tout net. Si vous voulez savoir où on en est sur les pistes de l'agriculture du vivant, celle dont on a besoin et vers laquelle on va, eh bien, lisez ce livre. Il est absolument formidable. Et je dis pas ça parce que j'en ai fait la préface.
Autonomia libre et solidaire avec, effectivement, dans les nombreux contributeurs, des noms que l'on connaît. Bah, tiens, Alain Canet.
Ah bah.
Qui préside l'agroforesterie en France.
Marc-André Sellos,
et bien
même,
sûr.
Qui a fait la postface. C'est Louise Barrault qui a fait ce travail énorme de réunir tous ces gens et il a eu raison.
On vous recommande cette lecture, raison. Une agriculture du vivant, réconcilier la terre et les hommes. Un grand merci pour ce coup de cœur et cette lecture nourrissante. Et puis merci surtout pour ces pancakes délicieux aussi au teff.
Et Linda est en train de rigoler parce que j'ai déjà fini ma mousse au chocolat.
Et bien justement, le teff, bon alors on n'a pas trop le temps d'évoquer le teff, même si j'imagine que vous en connaissez bien les propriétés, chère Linda.
Oui, j'ai un peu commencé à cuisiner le teff au départ dans un livre qui s'appelait 12 farines, paru aux éditions La Plage. C'était quelques années de ça. Et j'avais fait aussi des pancakes. J'avoue que je n'en trouve pas trop chez moi, donc je n'ai pas eu trop non plus l'occasion d'en cuisiner.
Mais c'est très bon. On vous disait que les terrains de jeu de Linda Louis étaient très nombreux. Allez, on va évoquer justement, avant d'évoquer cette recette qui comporte de l'huile de chanvre, on va chercher à comprendre comment on l'obtient, cette huile de chanvre, justement, en rejoignant notre chanvrier David Péchard pour presser les graines de chanvre qu'il vient de récolter avec notre reporter Stéphane Combe et pour obtenir cet élixir bourré de vertus, une huile alimentaire, l'huile de chanvre.
Donc là, depuis la récolte, la graine a été séchée. Elle a été triée. Donc au-dessus de notre tête, là, on a à peu près une tonne de graines de chanvre.
Et dans un silo ?
Dans un silo, voilà. Qui descendent par gravité dans la presse à huile que vous avez devant les yeux.
Alors c'est une espèce de...
C'est une grosse machine, c'est un moteur qui entraîne une vis sans fin dans une cage métallique et qui compresse la graine qui descend par gravité dans cette cage métallique. Cette pression permet d'extraire l'huile. Donc c'est la première pression à froid, il n'y a pas de chauffage qui est réalisé. Et donc là on voit l'huile qui goûte, l'huile de chanvre.
Oui, qui tombe dans un petit entonnoir.
Exactement, pour après être stockée dans une grosse cuve inox de 600 litres et qui va rester comme ça pendant un mois, c'est ce qu'on appelle la décantation.
Le pressoir, je ne vois que quelques gouttes qui tombent quand même. C'est-à-dire que quelle est la proportion d'huile par rapport à la quantité de chanvre ?
Pour du chanvre, on est à peu près entre 20 et 25% d'huile dans un kilo de graines. Donc pour faire simple, on a une tonne au-dessus de notre tête. Avec une tonne, on va faire entre 200 et 250 litres d'huile dans cette cuve.
Alors on peut la voir, l'huile ?
Oui, regardez, si on enlève le capot.
Allez-y.
Hop. Oh ! On a déjà, là on a au moins 500 litres d'huile qui sont déjà en phase de décantation.
Ah oui, elle est jolie, oui.
Donc l'huile de chanvre, c'est une huile verte.
Oui, elle est un peu, elle est verte jaune.
Voilà, c'est ça. Pour le chanvre, c'est la caractéristique de cette huile. Le colza, ça va être vraiment du jaune or. Le chanvre, ça va être vraiment une caractéristique verte.
Tiens, je vais monter sur ce petit tabouret pour regarder. Ah oui, il y a quelques gouttes d'huile qui
tombent. Voilà, c'est très lent. C'est très. On a à peu près sur 3 litres d'huile heure avec ce système de pressage. Donc c'est vraiment quelque chose de très doux, de très lent. Et donc l'huile qui suinte, qui goutte, tombe après encore une fois dans cette cuve et va pendant se reposer pendant un mois. Donc faut compter un mois et demi de entre le moment de la récolte et le moment de mise en bouteille et de commercialisation.
Et comme par miracle, l'huile de chanvre de David Péchard a atterri sur le plateau dont on va déguster. Vous en avez un flacon. À quoi peut-on s'attendre aromatiquement ?
Donc huile de noisette avec des teintes vertes et des teintes légèrement terreuses. Et une note finale légèrement amère mais pas très très agréable en salade.
Et notre ami Arnaud Daguin est en train de la consommer dans une espèce de mayonnaise végétale ?
Oui. Extra la mayonnaise.
Merci.
Vraiment.
C'est une chanvronaise en fait. Donc une mayonnaise...
Très très bon.
Voilà, réalisé à partir de graines, d'huile et de moutarde et de jus de citron sans eau.
Oh là là,
donc elle se conserve une semaine.
Oui, voilà, les oignons avec ça. Et très très bonne pour la santé de surcroît. Et puis bien entendu, la recette de cette fabuleuse mousse au chocolat aux graines de chanvre.
Oui, donc j'ai mis des graines de chanvre, de l'huile de CBD dedans et de la truffe de Bourgogne parce que la truffe contient de l'anandamine, une molécule du plaisir que l'on retrouve également dans le chanvre. C'était pour faire un clin d'œil à ces deux ingrédients.
Voilà, quand on vous disait qu'on pouvait faire des recettes tout à fait extraordinaires et bienfaisantes avec le chanvre dans tous ses états, si on résume, la graine, l'huile, la farine également, on l'a un peu moins évoqué, mais vous nous avez fait un cake qu'on va déguster ensemble. Cake olive, crottin de chavignol, c'est ça ?
Oui, parce que je suis berrichonne et chauvine, et puis donc et également des graines de chanvre.
La recette figure sur franceinter.fr à la page, on va déguster dans votre livre Super Chanvre et CBD. Aux éditions alternatives, la semaine prochaine, figurez-vous qu'on se penche sur le croissant, un totem français assez malmené, on va le voir. Nous recevrons Marie-Laure Fréchet, Elvira Masson et Dominique Hutin seront dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.